SNCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe, sur Radio Imo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un sujet brûlant, une solution dématérialisée pour la prise en charge et l'instruction de toutes les autorisations d'urbanisme exclusivement dédiées aux mairies et services de l'État. Une solution proposée par Maire Urba, puisque, en effet, à partir du 1er janvier 2022, toutes les communes devront être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d'autorisation d'urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants devront également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. Alors, comment faire? Y a-t-il une solution simple? On va en parler avec nos deux invités. On est ravis d'accueillir sur ce plateau Laurent Van de Westin. Bonjour Laurent. Vous êtes directeur de l'urbanisme chez Mairie Urba.
Tout à fait.
Et à vos côtés, Sacha Gaillard. Bonjour Sacha.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Adjoint au maire de la ville de Saint-Cloud. Bonjour et bienvenue. Avec vous, on va voir effectivement ces nouvelles obligations. Évidemment, vous y êtes bien évidemment soumis et vous allez devoir, dès le 1er janvier, eh bien, pouvoir vous exécuter en ce qui concerne effectivement ces demandes d'autorisation d'urbanisme. Est-ce que c'est quelque chose, première question, auquel vous avez déjà réfléchi, qui est en préparation à Saint-Cloud?
Oui, c'est quelque chose auquel on a réfléchi. Effectivement, on suit la législation en cours, la réglementation en cours. Ce qui est sûr, c'est que je milite, en tout cas au sein de ma majorité, pour dématérialiser autant que faire se peut, que ce soit sur les questions d'urbanisme ou d'autres questions d'ailleurs, pour travailler sur une meilleure collaboration en interne, une meilleure fluidité de l'information et une mise en place des projets qui soient beaucoup plus fluides. Et donc je pense qu'effectivement, ce type de solution permet de répondre à ces enjeux.
Oui, alors on l'a vu, hein, le numérique, le digital, ça fait éruption bien évidemment dans la vie des communes, des mairies. De plus en plus d'usagers utilisent ces solutions. Celle-ci, elle est particulière, elle est professionnelle. Laurence Van de Westin, expliquez-nous justement le principe de cette solution. Comment, quelle est la genèse du projet? Comment vous l'avez créé?
Alors, si vous voulez, donc Mairie Urba est un bureau d'études en urbanisme et en prévention des risques. Dans le cadre de nos activités, on produit un certain nombre de dossiers quotidiennement. Et pour ce faire, on a bien entendu développé un logiciel en interne qui permet de réaliser nos instructions. Et en faisant notre veille réglementaire, nous sommes tombés sur les textes de la loi Elan, notamment relatifs à l'obligation de dématérialisation et de prise en charge des autorisations d'urbanisme. Et on a décidé de réadapter, de réinterfacer cette solution en fonction des besoins et des enjeux des collectivités territoriales.
Mmh. Ça n'existait pas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de logiciels qui agrégeaient l'ensemble de ces data.
Il y a des logiciels qui sont locaux, qui permettent de fiabiliser et d'accélérer certains processus, notamment aux collectivités. Mais là, les textes sont vraiment très clairs et très orientés sur un environnement totalement dématérialisé, que ça soit du côté des demandeurs, donc on appelle pétitionnaires en matière d'urbanisme, ou que ce soit au niveau des services instructeurs en mairie. Donc la chaîne doit être entièrement dématérialisée, que ce soit de la prise en charge de la demande, de l'instruction, de la génération des documents, c'est-à-dire des arrêtés d'autorisation, jusqu'à l'acheminement vers le pétitionnaire, vers le demandeur.
Mmh. Et le fait justement que ça soit entièrement numérisé, ça évite aussi, on peut imaginer, les erreurs, bon déjà les documents, peut-être un petit peu moins de papier, à voir, mais en tout cas beaucoup d'erreurs, c'est ça, la chaîne va être entièrement... Eh bien, dans un seul ensemble, un seul logiciel.
Bien sûr. Alors, il y a un double enjeu hein, à ce niveau-là. Il y a un enjeu au niveau des demandeurs. Aujourd'hui, la grande majeure partie des autorisations d'urbanisme qui sont délivrées en collectivité concernent des demandes de particuliers, notamment pour la construction de maisons individuelles. Donc, des particuliers dont ce ne sont pas leur métier, l'urbanisme, ce n'est pas leur travail. Et aujourd'hui, la législation est faite de telle manière qu'il y a énormément de formulaires de demande pour chaque type de demande, et là le pétitionnaire lambda s'y perd. Donc l'outil informatique va permettre justement de limiter au maximum les erreurs donc du côté des demandeurs, mais également aussi du côté des services instructeurs qui vont pouvoir employer leur temps non plus à envoyer des courriers, des accusés de réception, mais employer leur temps sur des tâches à valeur ajoutée comme l'accueil du public ou passer du temps sur des instructions de permis de construire important ou sur du foncier comme les déclarations d'intention d'aliéner.
Sacha Gaillard, c'est vrai que c'est un vrai enjeu ça de justement utiliser au mieux ces agents pour de la valeur ajoutée plutôt que de la saisie informatique. Quand on voit le nombre de prises en charge, hein, d'instructions, des certificats d'urbanisme, des déclarations préalables de travaux, permis de construire, de démolir, d'aménager, ou encore des déclarations d'intention d'aliéner, ça fait beaucoup, beaucoup de travail.
En fait, ce que j'observe et ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, que ce soit sur une extension de parcelles de terrain, que ce soit sur une autorisation de construire, etc., on est encore sur du paraffeur papier, et c'est-à-dire sur une écriture toujours plus de papier, toujours plus de paraffeur sur le bureau du maire. Et ça, le problème, c'est qu'en fait on ne traite pas la question de la globalité. Aujourd'hui, les solutions digitales qui sont proposées sur le marché, ce qu'on observe, c'est qu'elles permettent d'avoir cet aspect plutôt global et cet aspect général, d'adresser en fait du point de départ du sujet, c'est-à-dire de la saisine, jusqu'à la sortie et donc à la construction, une procédure dématérialisée au sein d'une plateforme unique. Pour vous faire un parallèle, je travaille à côté dans une start-up, d'ailleurs, Legal Cluster pour ne pas la nommer, et donc on est sur ces enjeux de digitalisation des collectivités territoriales, effectivement, mais aussi du secteur privé, des directions juridiques. Et de ce point de vue-là, on essaye de permettre, sur un point d'entrée unique, de dématérialiser l'ensemble de leur process. Et c'est exactement le même sujet ici. C'est de se dire que comment on peut faire en sorte que l'ensemble des permis d'urbanisme, que tout ce qui concerne une thématique précise soit centralisé et peut-être géré à la fois pour l'administré et en même temps pour la collectivité en charge du dossier. Et donc si on peut limiter effectivement le papier, les paraffeurs et tout ce qui s'ensuit sur des sujets tels que l'urbanisme, tout est le bienvenu.
Donc on l'a compris, un pétitionnaire demande de pré-rempli d'autorisation directement transmise en dématérialisée vers l'autorité compétente, élu, service d'urbanisme, service de l'État, validation avec les générations automatiques d'un PNF, signature électronique et pour le pétitionnaire, donc réception du certificat. Une question, Sacha, peut-être pour vous, et Laurence vous compléterait, pourquoi le législateur finalement a voulu accélérer dans ce sens aujourd'hui ? Il y avait un manque, il y avait des failles dans le système ?
Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est sur... Alors, il y a deux réalités. La première, c'est qu'effectivement, on est dans un État qui régule beaucoup. C'est plutôt à dénoncer. Moi, je pense qu'on devrait plutôt laisser faire un certain nombre de choses. Aujourd'hui, quand on voit que, notamment sur des questions de conformité, de vigilance, etc., on réglemente toujours davantage. Il y a des endroits, je dirais, dans la loi ou dans le règlement, qui méritent d'être effectivement votés. En revanche, sur d'autres aspects, on devrait laisser faire et on devrait laisser plus de liberté. C'est notamment le cas pour une liberté vis-à-vis des communes où aujourd'hui on n'a pas cette liberté. Donc ça, c'est le premier point, c'est attention à l'État qui réglemente de trop. Mais quand l'État réglemente bien, il faut aussi le souligner. Et ça, là, ça permet en l'occurrence d'encourager une innovation, d'encourager des processus de dématérialisation. Et donc, du coup, je pense que ça va dans le bon sens.
Alors évidemment, Laurence, vous n'avez pas à me contredire, vous êtes engouffré dans la brèche. En tout cas, vous avez suivi la tendance pour créer ce logiciel. Il y a beaucoup de travail et c'est vrai que c'est très bien fait, on va l'aborder dans un instant. Mais vous aussi, vous avez le sentiment que, alors peut-être pas l'État régule trop, mais en tout cas qu'il y avait des manquements, il fallait encadrer plus ces pratiques justement de pétitionnaire à autorité compétente.
Alors des manquements, je ne pense pas. Après, je rejoindrai les propos. Effectivement, on peut avoir des législations qui peuvent paraître un peu trop réglementaire, trop restrictive vis-à-vis des communes, mais dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, notamment en matière, c'est la loi Elan, hein, tout simplement. Je trouve que le volet lié à la dématérialisation des autorisations d'urbanisme est une belle législation, puisqu'il y a un double enjeu. Il y a un enjeu vis-à-vis des administrés qui vont pouvoir bénéficier d'un service qui est plus efficient. Ils vont pouvoir constater également par transparence l'action des collectivités. Et derrière, il y a également un deuxième enjeu au niveau des collectivités qui vont avoir également une efficience au niveau de leurs services. On parle du papier. On est en 2021, la technologie nous permet de supprimer ce superflu et l'outil informatique aide vraiment à ce niveau-là, va être un complément en fait au travail humain. Donc il y a des enjeux économiques, écologiques et également d'efficience au niveau des services de mairie ou des services de l'État. Donc moi je pense que c'est une très belle législation. Il n'y avait pas spécialement de besoin à corriger, mais je pense un grand besoin d'évoluer, oui, et d'évoluer avec son temps et avec les technologies qu'on a aujourd'hui.
Quand on lit la loi, on voit à partir du 1er janvier 2022, c'est quand même demain, hein, là il ne reste plus beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura une marge de tolérance? Tout le monde ne s'est pas équipé, alors peut-être dommage pour vous pour l'instant, mais qu'est-ce qui va se passer pour les mairies non équipées? On pense peut-être à des communes plus petites qui n'ont pas eu le temps de s'adapter.
Oui, alors là, je pense qu'il y a deux sujets. Le premier, c'est celui de la fracture numérique qui existe dans nos territoires aujourd'hui. Et d'amorcer une vraie transformation digitale qui aille dans le sens d'un besoin réel. Donc de médiation numérique, donc d'accompagnement des populations et notamment des collectivités locales vers l'adoption de ces outils qui sont mis en place. Sur l'aspect de la fracture numérique, c'est une réalité en soi. Il y a trop de villes en France aujourd'hui qui sont des zones zéro réseau, qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas encore accès au débit. Pourtant, c'était une promesse de campagne du gouvernement actuel sur la totalité de mise en 100% au débit de toute la France d'ici à fin 2020. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a encore plus de 13 millions de Français qui sont en difficulté avec le numérique. Ça, c'est le premier point.
Ouais. Les raisons, justement, du retard. On peut évoquer le Covid, mais on sent qu'on n'a pas fait l'effort de numériser la France.
Effectivement, il y a un manque de volonté politique, premièrement. Et deuxièmement, il y a un manque de moyens. Aujourd'hui, quand on demande, et je veux dire par là que les initiatives privées prises par exemple des prestataires comme Mairie Urba, etc., sont des initiatives novatrices et qui vont dans le bon sens. Néanmoins, quand on voit que les villes sont péréquées comme elles sont péréquées, qu'elles payent autant d'impôts, pour faire simple, et que l'État se désengage vis-à-vis des communes, on peut quand même se poser la question de l'autonomie des collectivités territoriales dans ce domaine-là. Et donc, pour revenir au sujet qui nous intéressait, c'était un, la fracture numérique, donc un manque de volonté politique parfois, mais surtout un manque de moyens, parce que les collectivités ont de moins en moins de moyens pour mettre en œuvre leurs projets véritablement. Et le deuxième sujet, il est celui de l'accompagnement et donc de la médiation numérique pour pouvoir effectivement bien cadrer le projet digital, le projet digital en l'occurrence, en l'espèce qui nous retient ici, être sûr que ça répond à un besoin précis. Donc, en fait, avoir un diagnostic précis de la situation pour voir si, en fait, la solution qui est adoptée va véritablement être utile pour la population et la collectivité, le cas échéant. Et puis ensuite, l'accompagnement de la population et de la mairie, des agents communaux notamment, vers l'adoption de cet outil qui serait mis en œuvre. Donc, on a vraiment deux grands pains, si je puis dire, à adresser et qui sont aujourd'hui des réalités qu'on rencontre notamment et surtout au sein des collectivités locales.
Les pain points, les points de douleur, on sent le langage start-up chez Sacha. Vous êtes d'accord, je voyais hocher la tête Laurence Van der Westin quand il dit effectivement fracture numérique. Je pensais justement peut-être à vos commerciaux qui présentent la solution et des mairies qui disent on est démunis, on n'a pas encore ça, on n'en est pas là.
C'est un état de fait. Aujourd'hui, il y a énormément de communes qui sont en souffrance vis-à-vis de l'accès au numérique, notamment au débit. C'est un problème, un réel problème, puisque c'est la dématérialisation amène beaucoup de qualité. Ça permet de résoudre, de fluidifier les actions des communautés. Faut-il encore qu'elles aient accès à Internet pour pouvoir justement rentrer, les pieds dedans dans la dématérialisation. Et ça concerne pas uniquement l'urbanisme, on est sur tous les sujets techniques. Aujourd'hui, sans bonne connexion Internet, c'est très compliqué, effectivement.
Et c'est amusant parce qu'en même temps, c'est dramatique, c'est selon, puisqu'on parle beaucoup de la revanche un petit peu des territoires, avec phénomène effectivement de Français qui ont redécouvert les territoires à l'occasion de la pandémie, certains qui sont allés dans leur résidence qu'on appelle maintenant semi-principale, qui était la résidence secondaire. Maintenant, ils y vont un petit peu plus. C'est vrai que sans bonne connexion Internet, on peut finalement pas faire grand-chose.
C'est clair, et d'autant plus qu'aujourd'hui, on a un phénomène qui est un peu le troisième point que je voulais aborder, qui est celui de la difficulté qu'ont les collectivités locales à contractualiser avec le privé. On est sur des procédures très lourdes de marché public, de mise en concurrence préalable. Et donc, aux deux premiers éléments que j'évoquais, le manque de volonté politique et le manque de moyens, il y a un sujet de simplification de contractualisation avec le secteur public pour permettre, en fait, que le secteur public rattrape le retard qu'il a accumulé vis-à-vis du secteur privé. Ça va beaucoup plus vite avec les entreprises. Deux entreprises entre elles peuvent contracter beaucoup plus facilement. Et ça doit devenir aussi simple, si je puis dire, pour les collectivités territoriales qui ne devraient plus avoir à se soumettre à des procédures très longues et très coûteuses de marché public, de DSP, etc. Évidemment que c'est pertinent dans certains cas. Néanmoins, si, comme en 2018, les contrats d'innovation qui ont été mis en œuvre pour soutenir justement ces nouvelles entreprises innovantes qui arrivent sur le marché et pour leur permettre de contractualiser à moins de 100 000 euros sur 2 ans avec des collectivités locales, ça pourrait être pertinent de les généraliser et d'étendre leur périmètre d'action. Donc voilà un peu des exemples concrets qu'on pourrait mettre en œuvre. Les marchés d'innovation en sont un bon exemple. Je pense qu'effectivement, on a un vrai sujet d'adresser la possibilité de contractualiser plus facilement entre ces deux acteurs.
C'est-à-dire que, pratiquement, là, je pense à ceux qui nous écoutent, les élus, peut-être qui sont en train de se poser des questions par rapport à ces solutions, pour bénéficier, si on choisit par exemple Mérurba, il faut le mettre en concurrence avec d'autres, il faut faire un appel d'offres.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, les procédures de passation de marché entre le public et le privé sont réglementées. Bon, il s'agit de deniers publics qui sont engagés, donc faut que ce soit réglementé, bien entendu. Mais effectivement, les procédures sont lourdes et on a notamment des petites collectivités qui ont du mal à exprimer leurs besoins au travers des procédures de marché public. Alors, nous, on est...
Ça dépend de la nature aussi des travaux, on peut imaginer, c'est quand même
exactement
pas la même chose.
Il y a plusieurs procédures qui sont prévues dans le code de la commande publique. Nous, globalement, on essaie d'intervenir en dessous du seuil de recours au marché public. Sinon, globalement, en procédure adaptée. Donc, effectivement, dans ce cas précis, il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence et de publicité. Mais il y a un accompagnement effectivement à effectuer. Nous, ça nous arrive très régulièrement de dialoguer avec les collectivités qui sont dans le besoin pour les aider à élaborer leur doléance de besoin tout simplement, ouais, dans les cahiers des clauses techniques particulières, donc qui sont des pièces de marché. Vous voyez, déjà j'évoque un peu cette lourdeur. On parle de CCTP, de CCAP, de CCCP, de pièces obligatoires, et même les collectivités, notamment les plus petites, qui sont pas forcément les mieux armées en termes de ressources humaines et d'équipement, ont des difficultés à formaliser leurs demandes. Donc effectivement, oui, je pense que je rejoins les propos. Il y a, je pense, une uniformisation, une simplification de la commande publique qui devrait être effective.
Alors, en plus de ça, juste si je puis me permettre d'ajouter que, bon, évidemment, les acronymes dans les collectivités territoriales sont légion. Et c'est quand même incroyable de se dire qu'on ne sait même plus de quoi on parle à force. Ou en tout cas, il faut un niveau d'expertise vraiment bien poussé pour pouvoir être calé sur un sujet. Ce qui pose un petit problème d'acculturation, et c'est mon point, des agents en fait en interne.
Alors, demandez à Laurence, il a un grand tableau avec tous les acronymes, il les connaît
parfait.
Par cœur.
Bon, bah, faudra me le passer alors, parce que moi je crois que je suis pas sûr de le maîtriser.
Moi-même j'ai mes limites à certains moments.
Et en fait, tout l'enjeu, il est de pouvoir acculturer les agents territoriaux aux enjeux de transformation. Et donc là-dessus, il y a un effort de formation, je pense, à faire, qui est nécessaire.
Alors justement, excellente transition, c'était une des questions aussi. Comme tout bon logiciel, hein, quand on veut bien l'utiliser, ça nécessite une certaine prise en main. Voilà, on perd souvent un peu de temps, il faut accepter pour ensuite en gagner. Est-ce que vous accompagnez justement les agents lors du déploiement de Mérurba?
bien entendu, donc comme je l'expliquais précédemment, même dans la passation de marché, on accompagne certaines collectivités pour exprimer leur doléance. Et bien évidemment,
c'est-à-dire pratiquement là, si par exemple on commence, voilà, je suis en plein saisi d'un certificat d'urbanisme, etc. À un moment, je suis bloqué, il y a quelque chose que je comprends pas. Il y a une cellule technique, il y a des gens que je peux appeler.
Tout à fait. Donc nous, on est bien conscient de la carence. Si on regarde cela à l'échelle nationale, on est bien conscient de la carence en compétences en matière d'urbanisme, comme ça pourrait être le cas dans d'autres domaines, hein, notamment on parlait des marchés publics, mais c'est tout à fait le cas, il y en a d'autres. Nous, bien évidemment, on accompagne que ce soit les utilisateurs initiaux, c'est-à-dire les demandeurs, comme les collectivités dans l'utilisation de notre application. On a un bureau d'études qui est composé de 60 experts en urbanisme, bien entendu. On accompagne aussi ces collectivités qui peuvent avoir certaines carences dans ce domaine particulier. Et puis derrière, bah forcément, chaque mise en place, chaque déploiement de notre solution, on va proposer des protocoles de formation pour les administrateurs et pour les utilisateurs. Et on a une hotline dédiée à ce service afin de répondre aux questions, aux interrogations de ces divers publics.
Ouais, c'est important, Sacha Guerre. J'imagine que là aussi, il faut... on parle beaucoup de numérisation, mais pour vos agents aussi, ça veut dire qu'il faut se mettre à la page, se former en permanence. On sait aussi qu'il y a des publics plus ou moins appétents à justement rentrer dans le numérique et être à l'aise avec ces outils.
Absolument. Et puis l'idée, elle est de se dire aussi que aujourd'hui, on a des outils soit qui sont inexistants dans les collectivités, et donc du coup, la question de l'onboarding et du suivi.
Inexistant, ça veut dire quoi ? Il y a quoi ? Il y a
pas un ordinateur. Tout simplement, l'outil n'existe pas. Ouais. On est encore, comme je le disais au début, au paraffeur papier, etc. Donc là, la question du suivi et du support, elle est vite faite.
Ouais. C'est-à-dire, ces armoires avec des papiers, des...
Mais je pense qu'effectivement il y a une question d'archives qui va se poser à un moment donné, parce que
Legacy, il faut tout numériser.
Il faut tout numériser, et puis en termes d'impact carbone, écologique et tout ce qui s'ensuit, il y a une vraie question à se poser. Mais parenthèse fermée, et la deuxième, elle est aussi de se dire que les logiciels qui peuvent être mis en place aujourd'hui dans les communes, dans les départements, dans les régions, peuvent être obsolètes. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les logiciels qui sont mis en œuvre ne répondent plus aux besoins pour lesquels ils ont été mis en œuvre il y a 5 à 10 ans. Il faut le dire, il y a 5 ou 10 ans...
Il y a une obsolescence rapide, du coup.
Oui, et puis il y a 5 à 10 ans, effectivement, des logiciels qui avaient été mis en place pour répondre à un besoin précis. Pour prendre l'exemple de ma délégation, qui est la citoyenneté, l'état civil et les affaires générales, on a effectivement des logiciels métiers, je dirais, pour les agents qui ont été mis en place et qui ne répondent plus aux besoins identifiés aujourd'hui. Donc là, il y a un vrai sujet de mise en perspective et de mise à jour de ces outils-là. Et puis effectivement, tout l'enjeu d'onboarding, tout l'enjeu de support, tout l'enjeu de suivi des agents pour les acculturer doit être au cœur du projet digital aujourd'hui. Je pense qu'il y a un sujet de... un, cadrage du projet, comme je le disais tout à l'heure, et de deux, d'accompagnement des acteurs locaux vers une meilleure prise en main des outils qui seront déployés.
Alors justement, tiens, on va soulever un petit peu le capot de Mire Urba. On va pas rentrer dans le code quand même, mais c'est vrai que quand on regarde... une petite vidéo que j'engage tout le monde à aller voir, mire-urba.fr, on sent que vous avez fait un effort particulier pour ce qu'on appelle l'UX, l'expérience utilisateur, pour que ça soit facile à prendre en main et finalement assez intuitif.
Tout à fait. On a développé une interface qui est ludique, il faut le dire. On a simplifié tout ce qu'on pouvait simplifier au possible pour rendre le processus le plus clair possible, que ça soit au niveau du demandeur que ce soit au niveau de l'instructeur. Donc voilà, et puis on effectue bien entendu des maintenances évolutives, où on reste à l'écoute des évolutions réglementaires et aussi l'évolution des besoins. On parlait d'obsolescence il y a quelques secondes. Effectivement, aujourd'hui on a une vitesse qui est en place, c'est-à-dire que les technologies arrivant au fur et à mesure de plus en plus rapidement, ça amène des changements d'habitude et des changements d'usage de plus en plus rapides. Et donc nous, on se doit effectivement d'avoir toujours une solution qui est fraîche et surtout qui est facile à prendre en main en fonction des évolutions. Donc oui, c'est un sujet d'importance. Nous, c'est très important que les utilisateurs puissent naviguer de manière fluide sur nos différentes plateformes, que ce soit au niveau pétitionnaire, que ce soit au niveau instructeur.
Et Sacha nous parlait justement de logiciel. Là, on est sur une solution en SaaS. Alors, bon, on ne va pas décrire, hein, mais c'est-à-dire que ça va se mettre à jour, c'est ça, sans installer
voilà,
de nouveaux logiciels.
C'est ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui est relativement important pour nous. Il n'y a pas de logiciel à installer comme on pouvait le faire il y a une dizaine d'années.
Il y a code d'accès, identifiant, mot de passe.
Exactement. Tout se fait en ligne. En fait, il suffit d'une connexion Internet. Donc, il faut que la mairie et les administrés aient une bonne connexion. Et à partir de là, tous les accès se font en ligne, hein, que ce soit en mairie ou chez le pétitionnaire, ça peut être en télétravail ou en mobilité. Donc aujourd'hui, on se doit d'avoir une solution qui est adaptée aux usages de nos jours, notamment avec les successions de crises sanitaires qu'on a pu connaître.
Votre question sur la sécurisation, on peut se dire que voilà, c'est quand même des documents qui vont transiter, peut-être des choses pas confidentiel, mais quand même d'une certaine importance. Est-ce que vous vous assurez aussi un niveau d'encryption, de sécurité ?
Alors oui, forcément. Donc nous, les données des mairies sensibles sont stockées sur des serveurs externalisés et sécurisés. Bien sûr, il y a une question de réversibilité. Hein. On doit pouvoir restituer ces données aux collectivités qui en font la demande. Il y a aussi un des enjeux en termes de... Alors j'ai évoqué un sujet un peu technique, l'interopérabilité. Donc les connexions diverses solutions logicielles. Et donc, oui, ça amène des enjeux de sécurité qui sont prédominants.
C'est-à-dire on doit pouvoir se connecter à d'autres systèmes, c'est ça ?
Voilà, on a des collectivités qui utilisent des logiciels, notamment des observatoires du foncier. Et on a des demandes, des collectivités qui souhaitent connecter les diverses solutions entre elles. Et faire, en fait, si vous voulez, de l'échange de données pour les réexploiter d'une autre manière.
Mmh. La data, c'est important. Au cœur des mairies, là, vous êtes collecteur d'un grand nombre de données également.
Bien sûr, on est responsable d'un grand nombre de données. Et j'en veux pour preuve que la loi Sapin 2, pour parler de celle-ci, et non plus du RGPD. Tout le monde comprend qu'effectivement, il y a un effort de restitution, un effort de minimisation des données, de récolter le moins de données possible sur la personne, sauf celles qui sont nécessaires, etc. Sur les efforts de mise en conformité des collectivités territoriales, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que le secteur privé, on en parlait tout à l'heure, est largement en avance sur leurs enjeux de mise en conformité par rapport au secteur public. La loi Sapin 2 ne s'applique pas de manière obligatoire dans le secteur public. Et le rapport d'information Gauvin-Marleix qui est sorti au mois de juillet dernier pointe le retard accumulé justement sur la cartographie des risques, les procédures d'alerte interne pour les collectivités territoriales. Et donc, on parlait d'accompagnement également. Je pense qu'il y a un sujet d'accompagnement des collectivités vers leur mise en conformité, se donner des moyens nécessaires, utiles et obligatoires pour répondre à cette exigence légale qui est un vrai sujet parce que effectivement les entreprises ont l'opportunité d'avoir des compliance officers, les collectivités parfois ne savent même pas ce que c'est et n'en ont pas. Et donc là on a à redéfinir un peu le maillage territorial au niveau des agents pour retrouver un certain parallélisme entre ce qui est fait de ce point de vue-là sur le secteur privé et ce qui peut être fait demain sur le secteur public.
C'est vrai qu'il y a on a l'impression d'une vraie dichotomie entre un secteur privé qui avance très vite, un secteur public qui rame un peu. Bon, c'est vrai, sauf les impôts. Hein, ça marche très très bien comme site internet.
Ils sont précurseurs.
Ouais, ils sont très forts. Ils ont peut-être mis les moyens d'ailleurs dessus. Tiens, il nous reste quelques minutes. On termine quand même sur l'urbanisme. Laurence Van de Westen. On a, on le disait, hein, plusieurs cas de figure qui vont se présenter. Certificat d'urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, etc. Tout un tas de tâches. Ça peut être... Il peut y avoir demain d'autres choses, le logiciel peut évoluer.
Ah oui, bien sûr, la solution qu'on a développée, qu'on a conçue, est faite pour évoluer avec les besoins des usagers et aussi avec la réglementation. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle d'autorisation d'urbanisme, donc c'est-à-dire les certificats d'urbanisme, déclarations préalables et celles sous format de permis de construire, mais ça ne s'arrête pas là. En matière de construction, il y a énormément de documents qu'il qu'il faut continuer à produire. Vous avez des déclarations de travaux qui sont envoyées aux gestionnaires de réseau, donc par exemple GRDF, les réseaux de gaz, les réseaux d'électricité, qui doivent être consultés avant toute construction, avant tout démarrage de travaux. Vous avez les déclarations d'ouverture de chantier, etc. Il y a d'autres formalités liées à l'urbanisme et liées à la construction qui doivent être prises en charge. Et donc au fur et à mesure des demandes des collectivités qui sont clientes chez nous, bien entendu on agrémente notre solution avec ces nouveaux documents.
Point de vue là, je rajouterais peut-être une coloration un peu plus politique à la chose, qui est de dire aujourd'hui le projet d'urbanisme, le PLU, le projet local d'urbanisme, et maintenant au niveau intercommunal, doit répondre à une volonté politique. Il doit s'inscrire dans un projet politique, que les différentes entreprises ou partenaires avec lesquels les collectivités peuvent être amenées à contracter doivent comprendre qu'elles répondent à un projet politique de mise en place de ce pourquoi on a été élu au départ. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il est aussi de dire qu'il faut prendre conscience du fait qu'il y a de moins en moins de foncier disponible dans nos communes, que par exemple nous à Saint-Cloud on a été mis en carence de manière complètement arbitraire, je dirais, par le préfet sur le fait qu'on ne respecterait pas soi-disant le quota de logements sociaux. Néanmoins, le foncier non seulement est cher, le foncier n'est pas disponible, et déjà qu'on nous taxe du fait de bétonner, j'invite juste la population à comprendre une chose, c'est que si on est amené à construire le nombre de logements nécessaires pour répondre aux obligations légales, c'est densifier la ville de manière incroyable. Et donc tout ça doit s'inscrire dans un projet politique respectueux des engagements qu'on a pris vis-à-vis de nos concitoyens, et essayer de faire en sorte que les partenaires comme Mairie Urba puissent accompagner la collectivité pour répondre au mieux et de manière la plus efficace aux services rendus à l'administré, le cas échéant.
En tout cas, le service existe, Mairie Urba, voilà, solution dématérialisée pour la prise en charge et l'instruction de toutes les autorisations d'urbanisme dédiées aux mairies et aux services de l'État. Merci messieurs, on a fait le tour de manière assez complète pour en savoir plus. Donc je rappelle le site internet mairie-urba.fr pour faire vos demandes. Je pense qu'il y a des démonstrations et une équipe à votre disposition pour vous expliquer comment ça fonctionne.
Oui, tout à fait, vous pouvez nous rejoindre et bénéficier d'une démonstration d'instruction sur le stand G86.
Laurence Vernovestine, merci, vous êtes directeur de l'urbanisme chez Mairie Urba. Merci également à Sacha Gaillard pour cet éclairage, en tout cas, du côté des élus adjoints au maire de la ville de Saint-Cloud, président fondateur d'Esprit Territoire, également juriste, chef de projet chez Legal Cluster. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Radio Territorial.
Le SMCL, le Salon des maires et des collectivités locales, du 16 au 18 novembre 2021, en partenariat avec Pluriance, Mairie Urba et Cité Verte Europe, sur Radio Immo, Radio Territoria et Carbone Zéro la radio.